ce qu'on entend. Oh oui, ce sont les cloches de Pâques. Depuis Rome, elles en ont fait du chemin pour venir vous gâter, mes chers petits analogiques. Alors, joyeuse Pâques! Après Noël, c'est vraiment la fête que je préfère. Comme vous, à cause du chocolat. Oh là 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 là, à quand le chocolat numérique pour que j'en profite moi aussi? Et puis aussi les poissons numériques, les cloches numériques, les urbi et torbi numériques. Non, ça existe déjà. Aujourd'hui, dans le plus chocolaté des cyberflashs du monde, la chasse aux œufs dans le plus célèbre des jeux vidéo, et Cyber Thriller, un livre cyber, parce qu'il n'y a pas que les écrans dans la vie. Joyeuse Pâques!
Ah, les fêtes de Pâques, les cloches qui s'envolent, les œufs en chocolat cachés dans le jardin, le bisou à la tante qui pique. Autant de sympathiques traditions millénaires qui font la joie des grands et des petits. Mais saviez-vous que le petit moustachu de chez Nintendo était lui-même un fervent adepte du ramassage d'ovoïdes pascaux en milieu campagnard? Aviez-vous remarqué qu'on trouvait des œufs dans toutes ses aventures? Et de toutes les couleurs encore, jaune, rouge, vert, ou même parfois avariés, avec des taches. Mais d'où sortent tous ces œufs? On n'en trouvait pourtant pas la queue d'un dans Donkey Kong, la toute première aventure de Mario en 1981. Sa quête, par contre, était calquée sur un principe que Nintendo continue de décliner encore de nos jours, le sauvetage héroïque et désintéressé d'une ravissante princesse. Aujourd'hui, après plus d'une dizaine de jeux basés sur ce thème, on a l'impression que même si la princesse a été enlevée par la Terre entière, le plaisir reste toujours là. Les joueurs se fichent pas mal de ce qui fait courir Mario, le principal c'est qu'il soit au rendez-vous tous les deux ans pour de nouvelles aventures sur Game Boy, NES, Super Nintendo ou Ultra 64. C'est désormais une coutume. Comme les œufs de Pâques qui reviennent chaque année, les œufs de Mario reviennent hanter les nuits des accros du jeu de plateforme. Pire encore, les malheureuses victimes se passionnent pour les solutions publiées dans la presse spécialisée. Elles recherchent les Warp Zones que personne ne connaît et se mettent à traquer désespérément l'œuf bonus. Et les œufs n'ont pas dit leur dernier mot. Dans Yoshi's Island, le dernier épisode en date, on découvre les origines de Yoshi, le fidèle compagnon de Mario. Une île peuplée de petits dragons qui pondent des œufs qu'on peut utiliser comme armes. Depuis ses lointains débuts, Mario a pris de l'assurance et de la moustache. Désormais, il pulvérise régulièrement les records de vente de cartouches dans le monde et aux États-Unis, il trône au sommet du hit parade des personnages les plus célèbres, aux côtés de certaines souris à la voix énervante. L'œuf est-il la pierre angulaire de ce succès international? Allez savoir. C'est peut-être là le secret de l'extraordinaire réussite de Mario, faire des omelettes pour caser des jeux.
Cartouches, Mario, tout ça, pendant ce temps-là, vous ne lisez pas. Mais Cléo est là. Et je vous parle régulièrement des livres qui vous permettent de rester cyber avec cette vieille invention de Gutenberg.
Unabomber, vous connaissez? Ce mystérieux terroriste a, depuis 78, expédié 16 colis piégés à des informaticiens. Il en a tué 3 et blessé 23. Jeudi 4 avril 1996, il aurait été arrêté par le FBI. Ce fait divers, sanglant et 34 autres histoires vraies sont racontées dans Cyber Thrillers, un livre écrit par deux spécialistes de sécurité informatique.
Cyber Thriller raconte 35 histoires authentiques qui sont arrivées à des entreprises, des organisations qui ont connu des attaques de leur système informatique ou de télécommunication par des pirates. L'informatique est même utilisée par les délinquants classiques. Les trafiquants de drogue qui avaient trouvé un moyen assez sûr pour passer leurs marchandises à l'aéroport de Londres simplement en trafiquant les codes-barres qui identifiaient les bagages diplomatiques.
Toutes les histoires sont inspirées de faits réels et bien sûr bon, on n'était pas derrière les pirates lorsqu'ils ont eu tout leur dialogue, donc on s'est inspiré du fait réel en brodant autour, en romançant un peu les dialogues et les situations. Dans les années 80 aux États-Unis, deux types ont trafiqué un programme informatique de la météo locale pour que l'un d'entre eux puisse vendre un peu plus de produits anti-putréfaction.
Effectivement, l'affaire a bien fonctionné, il a vendu tous ses stocks et l'informaticien qui avait modifié le programme a eu de la promotion. Ces histoires, nous les avons trouvées, nous les avons puisées dans différentes sources. La première source, c'est bien sûr la presse mondiale, qui relate tous les jours des cas de piratage, de sabotage, de fraude. La seconde source, sont des conversations qu'on peut avoir avec différentes personnes, et du fait de mon métier de journaliste, nous sommes amenés à avoir un certain nombre d'informations qui ne sont pas forcément connues du public ni relatées dans la presse.
Un responsable de sécurité d'une banque américaine qui, pour prouver que son système était vraiment efficace, a piraté le système, a récupéré de l'argent et a acheté avec des diamants.
Et il s'est tellement pris au jeu qu'il a gardé les diamants pour lui et il a été finalement arrêté par la police qui l'a mis en prison. Les années 80, qui étaient l'époque du jeune étudiant qui piratait des logiciels parce que ça coûtait très cher à l'époque, dans les entreprises, on piratait aussi les logiciels, quelque, là, il y avait un problème de coût pour s'équiper. On a eu une deuxième époque où on a vu arriver des gens un peu plus ambitieux qui se sont attaqués à des systèmes militaires, à des grands réseaux, pour montrer qu'ils étaient plus forts que la machine. Il y a une troisième vague de pirates informatiques qui s'intéressent pas à l'argent qu'ils peuvent détourner directement, mais à l'information. D'où un certain nombre d'affaires de piratage de bases de données, d'espionnage informatique, d'espionnage industriel. Et ça, ce sont des affaires que l'on commence à voir arriver sur le devant de la scène et qui devraient prendre beaucoup d'ampleur.
Ben, pourquoi vous me regardez bizarrement? Je n'ai rien à voir avec les cyber serial killers et je ne fais pas de piratage informatique. Allez, n'ayez pas peur. Retour à la vie réelle avec Jérôme Bonaldi. A domani.